Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Brest-CTF et pour discuter de ce sujet, nous recevons les organisateurs de ce CTF justement. Donc Adrien Batchap.
Bonjour.
Guillaume Prigent.
Bonjour.
Donc Adrien et Guillaume de Diatim. Sax de la Team Expresso.
Bonjour à tous.
Luc Alès alias Caluche de la Team Expresso également.
Bonjour à tous.
Yann Courcou de la Meito.
Bonjour.
Et donc pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, nous avons déjà réalisé un épisode sur les CTF, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, Sax, est-ce que tu peux nous indiquer, nous rappeler ce qu'est un CTF ?
Oui, pour ceux qui ne sont pas assez familiers avec les CTF, CTF c'est pour capture de flag, donc récupérer le drapeau, et ça sert exclusivement, ça se passe en deux modes, donc on a des modes CTF en mode géopardie et d'autres en mode attaque-défense. Et pour la particularité... Chacun a sa particularité. Dans le mode géopardie, tous les participants vont avoir accès au même nombre d'épreuves en même temps, alors que dans un mode attaque-défense, chaque participant, chaque team reçoit la même configuration de VM, une ou plusieurs VM, doit l'auditer, puis ensuite attaquer les autres, d'autant que pas de chance ses propres services. Mais ça, je pense que Guillaume et Adrien l'expliqueront mieux en détail tout à l'heure.
D'accord. Alors, Brest-CTF, comment est-ce que vous avez décidé d'organiser cet événement ?
L'idée a germé bien avant dans ma tête, mais ça s'est concrétisé après le FIC 2014, où là, il y avait la Meito qui avait organisé un gros stand sur le site du FIC, et nous, on avait participé au CTF, entre autres avec notre fond, un autre membre de la Team Expresso, puis ensuite, j'avais proposé à la Meito d'en organiser un en Bretagne, parce que je trouvais assez dommage et assez surprenant que personne d'autre n'ait eu encore l'idée de faire un CTF en Bretagne, sachant que dans les autres grandes villes type Paris, Lyon, Toulouse, il y en avait.
L'objectif d'un CTF, c'est souvent de recruter, non ? Vous recrutez qui ?
Moi, mon but, le but du CTF, en tout cas, tel que moi je l'imaginais au tout début, c'était pas du tout de recruter, mais surtout de venir, de passer un bon moment, s'éclater au niveau des épreuves et surtout avoir une bonne ambiance. Moi je suis pas du tout dans le mode on recrute et tout, on va essayer de créer la meilleure société et puis.
Il y avait des prix à gagner au moins. J'ai entendu dire que les sponsors, certains ne répondaient pas aux mails alors.
Je laisse Caluche en parler.
Ouais, tout à fait, il y avait aussi des prix. Après, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est vrai que nous on est. Quand on a fait cet événement là, parce que pour ma part. Quand Sax m'a proposé l'idée de participer à cet événement-là pour monter tout ça, moi j'ai sauté sur l'occasion. C'était quelque chose aussi que je voulais faire, que j'avais essayé de faire en tout cas, mais à une toute petite échelle. Là, on a eu l'occasion de le faire sur une plus grande échelle. Sur la première édition, on est monté sur une centaine de personnes. On a vraiment fait ça dans l'esprit du partage et dans l'esprit de l'éclate. On a vraiment voulu rester, on a vraiment voulu faire quelque chose pour s'amuser en tout cas, et le fait que ce soit dans le coin, pour nous c'est clair, c'est un plus de pouvoir en profiter.
Alors, Sax, tout à l'heure, tu nous parlais de la Meito. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Donc, la Meito, c'est une association, un cluster d'entreprises du numérique et d'électronique en Bretagne, avec 250 adhérents, beaucoup de PME, des start-up. On est assez spécialisé cybersécurité puisqu'on a à peu près 60 de nos adhérents sur 250 qui sont dans la cyber. On n'avait jamais fait de CTF et quand Sax et Caluche sont venus nous voir pour nous proposer ça, on a trouvé que c'était un super événement à monter. Le premier Brest CTF, c'était l'année dernière. Là, on a fait une deuxième édition. On est passé à 160 participants. Et puis, on a amené aussi beaucoup de nouvelles épreuves. Donc, des workshops le matin destinés plutôt aux professionnels. Le challenge attaque-défense de Diatim l'après-midi. Et ensuite, vraiment la partie géopardie toute la nuit. Où là, on avait 28 équipes et un mélange de professionnels et d'étudiants.
Et la Meito, c'est,
La Meitos est financée par les 250 membres uniquement ou ça a des financements autres?
La Meitos est financée un peu par ses adhérents et c'est financé beaucoup par la région Bretagne pour
ah,
le
c'est
développement
ça, c'est
de
ça.
La filière numérique.
Donc en fait, c'est un lobby pro-breton, quoi.
Complètement.
Alors Yann, tu nous as parlé justement de Diatim et du capture de flag attaque défense, c'est ça? Guillaume, tu peux nous en dire plus?
Oui, alors le capture the flag attaque défense, c'était une épreuve de 4 heures qu'on avait proposé à Saxe lors du FIC en disant tiens, ça serait bien de faire évoluer peut-être un peu le format de cette année là. Et donc on a organisé un challenge où il y avait 35 personnes, c'est ça un peu plus Adrien?
C'est ça, 35 personnes.
Ouais. Il y avait 15 équipes, donc les gens étaient par équipe de 3, donc c'était le challenge My Little Ponies. Donc chaque équipe était un poney. Et donc le concept du challenge, c'est que tout le monde doit défendre ou attaquer ses box, ses machines virtuelles. Donc là, cette année, on avait, du fait de la durée, on ne peut pas non plus avoir des choses trop, trop variées, mais il y avait 7 services vulnérables à défendre ou attaquer, avec des choses assez, assez variées. Et puis, la spécificité qu'on a mis en place au niveau du CTF Attack Defense, c'était de permettre à des gens qui n'ont pas forcément l'expertise technique pour sortir d'un PJL ou d'un ROP ou d'un buffer overflow, d'être capable d'aller sur le black market, parce qu'il y avait un espace black market où les gens pouvaient acheter des exploits ou des patchs, donc les vrais exploits et les vrais patchs. Et il y avait aussi une spécificité SWAT, donc on pouvait mettre à prix, c'est ça Adrien, on pouvait mettre à prix la tête des... Donc il fallait payer à chaque fois.
C'est un black market que vous aviez entièrement refabriqué, recréé vous-même.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui.
Ah oui, donc avec de l'argent virtuel au départ, donc c'est une très grosse organisation, ça.
Oui, c'est du travail, c'est clair que c'est du travail. En plus, il y a le scoreboard 3D avec les villes qui se construisaient. On s'est fait un peu plaisir, mais c'est largement réutilisable. Donc ce qu'on voulait, c'était privilégier les deux aspects, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer d'un point de vue technique, en attaque-défense, qui est quand même un petit peu spécifique, et la capacité aussi à gérer éventuellement ses crédits en achetant des exploits ou des patchs pour, quand on est en pure stratégie jeu, réussir à s'en sortir correctement.
Et qu'est-ce qui valait mieux? Valait mieux acheter des patchs ou des exploits?
Alors, ça c'était un peu la particularité de CTF.
Les participants soudoyer les organisateurs. En fait, c'était beaucoup plus pratique.
Ils ont essayé à plusieurs reprises. Le gros problème, c'est que soit l'exploit ou le patch avait des noms complètement incompréhensibles et on ne savait pas trop ce qu'on achetait à chaque fois.
C'est un peu comme sur le black market, en fait.
Non, mais on teste la marchandise avant d'acheter sur le black market.
Alors du coup, clairement, pour répondre à la question d'Hervé, il y a des stratégies qui se sont avérées un petit peu foireuses, parce que c'est clair que si tu attends 3h30 pour acheter tes exploits, il y a pas mal de teams qui ont déjà patché. Donc voilà, faut se la jouer un peu finaux, être prêt à s'endetter pour gagner plus de points, sachant que les prix des exploits étaient 70% des gains totaux des flags par équipe. Il faut juste gérer sa barque. Bon.
Et tu attaquais depuis des machines vulnérables ou tu attaquais depuis d'autres machines? Comment ça se passe?
Alors en fait, les équipes de 3 sont branchées physiquement à côté de leur VM. Donc elles peuvent attaquer à partir de leur machine personnelle, comme elles peuvent être connectées. Elles étaient connectées en SSH avec clé dans leur box, mais la box n'avait pas beaucoup d'outils. Donc la plupart des gens avaient leurs propres Kali, leurs propres outils. Il y avait même des gens qui avaient préparé le coup, parce que la nuit, il y avait Saxe avait annoncé qu'il y avait du PJL. Donc il y avait des gens qui avaient bossé leur PJL. Et puis, manque de peau, nous, on avait aussi du PJL. Donc il y a des gens qui sont arrivés en 2 minutes. Ils avaient le PJL partout sur les 14 équipes. Donc les gens s'entraînent et il y a du niveau quand même.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté d'attaquer les machines perso des autres concurrents?
Alors, ça, on ne l'a pas vu. On a vu quelques tentatives sur le scoreboard.
Non, mais ça, c'est pas un vrai CTF. Ils sont trop honnêtes, là, les candidats.
Ça, c'est... Bon, après, c'est le jeu. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis une mettre passe-phrase partout pour route et qu'on s'est retrouvé avec des attaquants qui avaient le mot de passe route partout.
Ouais, alors ça c'était un peu le fail, mais.
D'accord, alors, avant d'expliquer quelles étaient les épreuves, on nous explique le fail du CTF. Bon, ça c'est une émission qui est dans le bon sens. Hein.
Les machines vulnérables avaient 7 services vulnérables, dont un qui est un P-Jail. Donc il faut s'échapper du... Et
tu peux préciser ce qu'est un P-Jail ?
Bon, un P-Jail, en gros, c'est une sandbox en Python. On peut exécuter des commandes qui sont limitées. Et là, l'idée, c'était de sortir de la limite de ces commandes-là pour arriver à exécuter des commandes système.
Voilà, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde était connecté avec une clé privée différente en SSH sur sa VM, mais le mot de passe route de la VM était le même pour toutes les VM. Et donc, normalement, quand tu prends possession d'un bastion, généralement, le premier truc que tu fais, c'est de changer le mot de passe route. Sauf qu'il y a pas mal d'équipes qui ne l'ont pas fait. Et donc, comme il y avait des gens, et on ne citera pas qui, parce qu'ils... voilà, qui avaient bossé leur P-Jail, quand ils sont arrivés... Eh ben, ils sont sortis de la P-Jail, ils ont tenté le mot de passe route par défaut, et ils sont venus lire les flags un peu partout. Donc ils se sont juste fait chier pendant 4 heures à attendre pour pouvoir soumettre leurs flags. Donc ils ont fini premier, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de remise de prix, parce qu'on avait préparé des Raspberry, des choses comme ça. Mais bon, voilà, donc les vrais gagnants, c'est les deuxièmes. Et bon, ça arrive, ça peut arriver. Mais bon, ça n'a pas gêné le déroulement du jeu des 14 autres équipes. Hein. C'était, bon, c'est juste une équipe qui a... Voilà.
Moi, je trouve que c'est bien dans l'esprit Black Market et CTF alternatif.
Oui, carrément. Bon, y a eu des trucs sympas. Il y a eu l'équipe des élèves, là. L'équipe des élèves d'une école d'ingénieurs qui, en désespoir complet...
ont souhaité leur propre prof.
Ils ont souhaité leur prof, parce qu'il y avait leur prof qui était là dans une autre équipe. Donc là, ils ont blacklisté leur prof. Et puis après, en désespoir, ils ont acheté tout ce qu'il y avait sur le Black Market. Donc eux, ils sont partis à moins 20 000 dans le scoreboard. Et ouais, non, il y avait des.
Surendetté, interdit bancaire.
Interdit bancaire.
Ah, tu pouvais t'endetter, ça c'est pas mal. Ah,
oui,
tu peux découvert.
Ah, à l'infini. Ça c'était rigolo. Il y a aussi les gens qui avaient patché leur service, parce qu'il y avait un service à patcher, et qui renvoyaient un faux flag en faisant croire que c'était vulnérable. Et donc nous on courait partout pour vérifier que le flag était bon dans notre base de données. C'était infernal. C'était infernal.
Mais il suffisait pas d'avoir un sponsor pour acheter toutes les exploits à la place des autres.
Ouais, mais là, faut être capable de corrompre les organisateurs et c'est pas demain la veille.
Ah bah.
Wow, bah moi, j'en connais qui ont été corrompus pour moins que ça. Et je ne donnerai pas de nom.
Alors, ils ont été corrompus pour quoi ? Tu te donnes pas de nom, mais tu peux donner qu'est-ce qu'il a fallu pour les corrompre ?
Non, mais ça, tu vois, enfin, ça, par exemple, ce sont le genre de petites anecdotes que l'on raconte, entre autres, qu'on va prendre des verres vers 3, 4, 5 heures du mat.
Alors, ce qui était sympa cette année sur la partie Brest CTF, c'est qui a fait le podium. L'année dernière, on avait, c'était plutôt des équipes de pros qui ont fait le podium. Et là, cette année, sur les 3 équipes gagnantes, on a eu 2 équipes d'étudiants. Donc des petits jeunes de 21-22 ans qui ont coiffé au poteau voilà, des équipes un peu connues, je ne citerai pas, mais et donc les premiers et les troisièmes, c'est des équipes d'une formation qu'il y a en Bretagne, à Vannes, de l'NCBS, une formation ingénieur cybersécurité en alternance. Donc ça, c'était vraiment super sympa.
Ouais, on a entendu quelques teams pro rager en partant le samedi matin. Ouais.
Et ouais, il y en avait quelques-uns qui étaient un peu verts.
Il ne l'a pas peur, en fait.
Bon, mais ce qu'on n'a pas dit sur la team Expresso, c'est que cette année, ils ont fait premier à l'un des challenges du FIC. Donc peut-être qu'ils pourraient nous donner leur point de vue de la part d'une team qui est passée de l'autre côté du miroir, parce que c'est un peu comme la sécurité, quoi. C'est beaucoup plus facile d'attaquer que de défendre. Alors c'est probablement plus facile de poney un CTF que de l'organiser.
C'est clair.
Ça, c'est clair.
C'est clair. Et je sens venir actuellement des attaques très personnelles. Bon, on va pour juste peut-être remettre légèrement dans le contexte. En 2014, quand Expresso encore avait participé au challenge, un des challenges du FIC, mais ça, c'était fait par des étudiants d'une formation qui se trouve dans le Schnorr. Bah, ces personnes-là aussi avaient un service qui tournait en Python, donc une interface web, mais ils ne l'avaient pas assez bien sécurisé. Donc, on s'est retrouvé à les pouner, à être à passer et du coup à les router. Donc, on avait récupéré pas mal de choses là-dessus. Et donc, pour répondre un peu à ta question, Nico, ça change totalement de passer de l'autre côté de la barre. Enfin, là, on se dit qu'il faut absolument penser toutes les épreuves, mais aussi, je pense, le plus compliqué, mais ça, je pense que Caluche en parlera mieux que moi, c'est vraiment de mettre en place toute l'infrastructure et qu'elle puisse tenir pendant 12 heures, sachant que il y avait des épreuves sur lesquelles les participants devaient interagir directement sur le serveur, donc le brute forcé. Et là, c'était un peu plus compliqué, touchy à gérer. Si l'on sait qu'il y a quelques CTF qui sont passés cette année, entre autres dans l'INSEC, qui était à Lyon, et hélas, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Et en effet, ce sont le genre de choses qui peut assez rapidement contrarier... on va dire les participants et réellement avoir de mauvais retours sur le CTF, même si ça part d'un très 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 bon sentiment à chaque fois.
Alors du coup, comment faisiez tout le CTF était en local sur un LAN, ou est-ce qu'il y avait des épreuves qui étaient hostées dans le cloud ou à l'extérieur de la salle, on va dire?
On avait tout sur une seule machine. C'est même pour ça qu'on a eu un petit peu peur. Donc on avait une seule machine qui hostait tout le CTF.
Ça c'est du CTF breton, ça c'est.
Ouais, c'est
à l'économie.
Ouais. Mais on est des gens très confiants aussi. Mais ça s'est bien passé. Le serveur a tenu la charge.
Mais c'était un très gros serveur.
Eh ben non, justement, il était moins puissant que l'année dernière. Et on était 50% de plus à jouer dessus. Donc oui, on a un peu paniqué avant de lancer le. Avant de donner l'adresse IP aux participants pour qu'ils puissent commencer à attaquer. Mais au final, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'on a les. En tant que défenseur, on va dire, quand on est de l'autre côté de la barrière, on a vraiment cette difficulté à penser à toutes les solutions qui peuvent permettre de gagner, de flaguer une épreuve. On va penser à une solution et toute la difficulté va être de faire en sorte que la personne en face ne trouve que cette solution-là. Ou en tout cas, pas beaucoup d'autres. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est de faire en sorte qu'une épreuve qu'on va se faire plomber ne nous plombe pas toutes les autres épreuves du serveur. Ça, c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Ça nous est pas arrivé l'année dernière, ça nous est pas arrivé cette année. Tout ce que je souhaite, c'est que ça nous arrive jamais.
Et comment vous faites la machine d'hébergement, c'est quoi comme OS Vous utilisez Docker pour ségréguer les épreuves, enfin c'est quoi le principe?
Ouais, j'utilise Docker pour sandboxer, pour dockeriser chaque service et chaque épreuve qui peut être ou qui peut provoquer un risque sur le système host.
Donc, et au niveau du système d'hébergement, c'est du Linux ou c'est enfin.
Oui, c'est du Linux.
Non, parce que on va dire les CTF majeurs étaient très FreeBSD pendant longtemps, donc c'est vrai que sous Linux il y a quand même pas mal de, disons assez régulièrement, il y a des failles noyaux qui sont trouvées, donc avec une faille noyau tu t'échappes d'un Docker sans difficulté, quoi.
Bah peut-être, mais après imaginons que ce soit le cas, imaginons que ce soit possible. Sur l'infra, enfin je veux dire sur la machine qui était en place, même si c'était possible, Bah, je pense que sur 55 challenges disponibles sur l'interface, les mecs, je pense pas qu'ils vont se prendre 4, 5 ou 6 heures à essayer de fingerprinter mon service, savoir où est-ce qu'ils sont, savoir comment ils pourraient s'échapper, enfin bref, faire presque un test d'intrusion interne sur le Docker, alors qu'il n'y a peut-être même pas la possibilité de s'échapper.
Ouais, mais donc, ça j'ai envie de répondre, sauf si tu t'appelles Nicolas Ruff et que tu vas au FIC et que au lieu de faire le CTF, tu fais un autre challenge.
Bon, et puis sérieusement, c'était quoi les épreuves?
On avait différentes catégories, enfin vraiment les catégories assez classiques et deux, trois épreuves un peu plus exotiques qu'on trouve pas dans les autres CTF. Par exemple, cette année, on avait une épreuve avec du NFC, donc il y avait les candidats avaient chacun une carte qui recevait par équipe et en fait, il fallait qu'ils s'authentifient sur une board qui était à disposition. Et en fait, derrière, c'était juste tout simplement une injection. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rendait compte qu'ils étaient un tout petit peu bloqués du fait que ce soit un service à badger et qu'ils ne pensaient pas à injection derrière. On avait aussi d'autres épreuves assez classiques avec des jails, donc avec des niveaux croissants et puis quoi d'autre encore.
Bon, on a eu tout ce qui peut être challenge web, on a eu des challenges forensiques qui étaient assez rigolos aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre?
C'était quoi comme challenge forensique?
Alors j'en ai deux qui me viennent en tête. J'en ai deux, c'était tout simplement un dump d'une image Windows qui disait qu'il y avait un groupe de réseau de hackers qui avait discuté sur l'OS dont l'image avait été récupérée. Et qu'il fallait retrouver cette discussion-là, justement. Et on se rendait compte, en fait, en creusant un peu et en recherchant un peu dans les process, dans les programmes, dans tout ça, que le hacker, il utilisait Facebook pour communiquer et qu'on pouvait récupérer tout le contenu de la discussion qu'il y avait dans le Facebook Messenger sur la machine.
Et ça correspond, ça correspond vachement à la vraie vie, ça.
Ouais, les réseaux de hackers sur Facebook, il y en a tellement. Ouais.
J'avais pas vu encore. À la rigueur, peut-être des débutants, ils doivent utiliser Telegram là, mais non, c'est pas sur des chats IRC ou des machins comme ça. Enfin bon. Facebook, pourquoi pas.
C'était plutôt, si tu veux, dans l'idée de retrouver de la data dans des flux qu'on est tous capables d'utiliser au quotidien, quoi.
Dans des flux merdiques.
On avait aussi d'autres épreuves. Entre autres, une épreuve, c'était une épreuve plus de réseau. Et là, on se rendait compte que l'attaquant avait exfiltré la donnée qui se trouvait être un PDF au travers d'un DNS. Et donc là, ils avaient une capture avec plein de noms de domaine et avec un nom de domaine qui était assez chelou. Et quand on se rendait compte que l'entête correspondait à de la base 64. Donc il fallait cater tout ce domaine-là, remettre tous les blocs ensemble et puis ensuite reconstituer le document derrière pour avoir le flag.
Pas mal, ça.
Non, mais c'était juste une encapsulation sur le DNS pour faire de la fuite d'informations, c'est ça?
C'est exactement ça. Et sinon, assez classique aussi... Des épreuves web, et dans une en Wookie, et ça je vais laisser plus Lucas la présenter.
Ouais, alors il y avait une épreuve web, en fait, donc il y avait une SQL injection à trouver, et c'était le site web, ça représentait la page de login du site personnel de Chewbacca. Donc on arrivait sur le site web et il y avait un texte un peu incompréhensible dans le bas de la page, et si on googlait juste le début du texte, on se rendait compte qu'en fait le texte, il avait été généré à partir d'un petit outil qui avait été fait en Ruby, je crois, de tête, qui s'appelle Wookie Translator. Et on décode tout le texte et on se rend compte que toutes les inputs qui sont passés sur les pages web sont translate en Wookie, justement, avant d'être envoyé à l'application. Et donc, théoriquement, ce qu'il aurait fallu faire pour casser l'application et pour obtenir le flag, c'était une injection SQL en Wookie. Donc c'était assez rigolo.
Et comment ça se dit OR en Wookie?
Je sais plus, je l'ai pas de tête. Ah ouais, quelque chose comme ça.
Il faut le faire en d'autres acquis, hein, c'est plus tendance.
Ouais, peut-être pour l'année prochaine.
Alors, c'est quoi les ambitions pour ce CTF? Parce que quand tu dis l'année prochaine, ça veut dire que c'est devenu un événement récurrent maintenant, ça s'installe dans le paysage. Vous allez peut-être le combiner avec une conférence majeure de la même région, voire l'inscrire sur ctftime.org, parce que je vois qu'il n'y est pas encore.
Non, non, ils ne peuvent pas combiner avec une conf majeure de la même région à laquelle personne ne peut s'inscrire.
Non, alors, on a pas eu que des Bretons au CTF, au Brest-CTF. On a eu des gens de Lille, des Parisiens, des gens de Toulouse, de Lyon. Donc, on peut venir sans son passeport breton au Brest-CTF, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce qu'au moins ce sont des Bretons qui ont gagné?
C'est deux équipes bretonnes et le deuxième, par contre, c'est des Parisiens.
Dont un Breton, donc, que vous connaissez bien, Guillaume, qui d'ailleurs n'est pas avec nous ce soir.
Mais l'ambition du Brest-CTF, c'est effectivement d'en faire un rendez-vous récurrent. Et cette année, on a eu plus de monde. Toutes les inscriptions ont été closes en quelques semaines. Moi, les participants avec qui j'ai pu discuter à la sortie du Brest-CTF nous ont dit que le niveau était peut-être un petit peu plus élevé que l'année dernière et qu'en tout cas, il était assez élevé par rapport à d'autres compétitions qu'ils font. On a des super sponsors qui suivent chaque année. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment d'en faire un rendez-vous annuel au printemps. Ça tombe bien pour les étudiants. Et cette année, on l'a enrichi. Et l'année prochaine, on pensera peut-être encore à d'autres choses à ajouter.
Alors justement, est-ce que vous avez pensé à des choses qui seront réalisées l'année prochaine, des choses nouvelles? Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que vous le savez déjà d'ailleurs?
Au niveau des épreuves, hein, je suis sûre que Sax et Caluche ont déjà pensé à des choses. Au niveau du challenge attaque-défense, oui, Guillaume, tu as déjà réfléchi à un certain nombre de choses, je crois, de ton côté.
Oui, alors nous, on a décidé de faire un vrai black market. Les sponsors apportent leurs exploits et tu payes en carte bleue.
Ah, ça devient intéressant. Et est-ce qu'il y a des attaques prévues sur des systèmes industriels là?
Eh ben, c'était déjà le cas cette année.
C'était déjà le cas.
Ah, vous les avez pas cités dans les épreuves?
Bah non, mais bon, il y a plein de gens qui ont pas résolu. Alors si on veut pouvoir faire du reuse, donc ouais, on avait des automates industriels. Et donc, y avait deux trois blagues à faire. Voilà. Mais oui, ça, on pourrait étoffer un peu. Il n'y a pas que des automates, il y a potentiellement d'autres trucs. Mais oui, on pourrait. Bah, après, nous, on avait proposé ça à la Meito, à Sax et Caluche. On n'a pas de velléité d'en faire un régulièrement. Enfin, voilà, ça va se discuter. On verra quel format l'année prochaine. Est-ce qu'on garde ce format-là? Est-ce qu'on rajoute des talks? On étoffe les workshops? Est-ce que. C'est peut-être un peu tôt encore pour en parler, quoi. Mais oui, nous, on est fanas pour recommencer. Hein. Il y a des améliorations à faire, notamment les gens se sont plaints. Bon, alors les gens se sont plaints, mais ils n'ont pas trop l'habitude de faire l'attaque défense non plus. Donc, de ne pas pouvoir monitorer leur service. Donc, ils auraient aimé avoir une page web qui leur dit. Parce qu'en fait, on faisait perdre des points aux gens quand leur service n'était pas dispo, d'un point de vue fonctionnel. Donc, on vient de checker les services, évidemment, parce que sinon, il suffit d'arrêter ces démons et puis tu risques pas de te faire attaquer. Donc nous, on vient de checker les services, on check au niveau fonctionnel, au niveau réseau, et on check par en dessous, au niveau host, que les gens ne s'amusent pas à changer leur flag, ou changer les droits sur leur flag, ou modifier, parce que les gens étaient dans des conteneurs LXC, quoi. Bon, l'équivalent Docker, si vous voulez, mais voilà. Donc ils se sont plaints de ne pas pouvoir facilement voir que leur service était down ou up, et que surtout ce qu'ils voulaient c'était savoir si ça valait le coup de les patcher, si tout le monde avait déjà capturé les flags. Bon, en gros, de mâcher un peu le boulot, mais voilà. Donc il y a des améliorations, il y a des axes d'amélioration potentiels.
Après, il y a certains CTF où les équipes se retrouvent à faire leur propre service de upstart pour leurs épreuves. Donc là, arriver à faire du monitoring, c'est peut-être un peu trop poussé et trop les aider. Et...
Ouais, mais c'était 4 heures aussi, ils ont pris cher.
Mais c'était
quand même.
Court en termes de 4 temps.
4 heures, ils prennent cher quand même.
Ouais. Sinon, de manière générale, On a eu, entre autres, un petit sondage qu'on a soumis à tous les participants du Brace ETF, et les retours qu'on a eu, entre autres, ils sont très 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 encourageants et vraiment très gratifiants. Enfin, si on sait que, surtout, Calu chez moi, on a passé beaucoup de nuits blanches, surtout vers les dernières semaines pour préparer tout ça, et qu'au final, le résultat soit là, et que tout le monde soit reparti, mais vraiment conquis, avec une très bonne ambiance, mais vraiment un très bon état d'esprit, ça ne laisse augurer que de bonnes choses pour la suite. Donc on va essayer par contre de prendre en compte tout ce qui nous a été dit, entre autres au niveau des épreuves. Enfin, on s'est aussi rendu compte que, entre autres sur le Brest ETF en lui-même, sur le Géopardi, sur 10 000 points, la première équipe s'en sort avec un peu plus de 4 000 points. Donc il y a peut-être aussi des questions à se poser de notre côté. Est-ce que le niveau n'était pas un tout petit peu plus compliqué? Enfin voilà, il y a quelques ajustements à faire, mais ce sont des choses dont on va débriefer. Mais là je sais qu'on va quand même avoir limite l'équivalent d'un mois de farniente. En fait, absolument rien foutre. Quand on va descendre du boulot, ça va être bière, sortie et tout. Enfin voilà. Et puis ensuite, au mois de juin, on va recommencer à se mettre dans la sécu. Mais là, je parlais de manière très personnelle.
Non, mais sur les nouveautés 2017, Guillaume, je suis contente d'apprendre que tu comptes faire un véritable black market où on paiera en carte bleue. Parce que comme on gère, nous, la relation avec les sponsors, autant que je le sache tout de suite et qu'on se prépare à gérer cette partie-là.
Ouais, alors ça sera... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient intéressant de sponsoriser une équipe.
En fait, ça ne sera pas forcément par carte bleue. Et on encourage les sponsors à fournir des exploits et des patchs, et aussi à sponsoriser des équipes, parce qu'il faut que le milieu se professionnalise.
Ah, tu veux dire que le CTF, c'est du e-sport ?
C'est du high sport.
Eh ben, en parlant de sport, on avait une épreuve pour récupérer des points où les candidats devaient réellement faire du sport.
Ah là, c'était top cette épreuve. C'était juste génial. Les 60 pompes à faire par équipe, ça a été vraiment une super idée.
Avec une station Sun sur le dos, j'espère, parce que sinon... Dans la région rennaise, il y a beaucoup de gens qui font des pompes tous les matins.
Bon, est-ce qu'il y avait des équipes de filles ?
Sur 145 participants, il y avait 4 filles.
Waouh, super !
Donc, on leur a demandé qu'elles se regroupent l'année prochaine et qu'elles fassent une équipe exclusive féminine. Mais non, ça reste quand même très majoritairement masculin. Et je crois que sur le challenge attaque-défense, Guillaume, il n'y avait pas une seule fille.
Non, il n'y avait que des poneys. Mais non, il n'y avait pas de filles. Malheureusement, il n'y avait pas de filles.
Les poneys sont asexués et voilà. Ils ont des crinières en arc-en-ciel.
C'est ça. Crottin magique et éperon d'or. Non, il n'y avait pas de filles sur... Mais ça s'explique, hein. C'est pas un milieu où il y a beaucoup de féminines sur le... Bon, après, on peut faire un premier prix féminine, un premier prix senior, un premier prix...
Du coup, tout le monde a un premier prix.
Ouais.
Les plus de 30 ans, ça ne s'appelle pas senior, ça s'appelle vétéran. Hein. Dans le foot.
À l'année dernière, on avait eu...
Frustration.
On avait eu un lycéen de 14 ans, je crois, ou un collégien. Il n'est pas revenu cette année, mais du coup, on avait eu vraiment un prix spécial pour le plus jeune. C'est sa maman qui l'avait amené. C'était assez sympa.
Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour Hervé s'il participe.
Il est bien vu.
Bon, et comment on peut vous donner un coup de main? Est-ce que vous cherchez des sponsors, des gens pour vous aider à l'organisation technique ou logistique?
Ce dont on a plus besoin aujourd'hui, c'est plus de sponsors que de l'organisation. Si pour l'année prochaine il y en a déjà qui se sentent l'âme de sponsoriser le Brest ETF, ils seront vraiment les bienvenus.
Ouais, si vous avez un serveur, on est preneur.
Moi, j'en ai quelques millions, mais bon, je peux pas vous les transporter.
Oui, je pense qu'on peut rappeler aux peut-être aux gens qui voudraient vous aider, qu'ils peuvent également sponsoriser peut-être en vous fournissant du matériel, ce genre de choses.
Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Ou des goodies, ou vraiment bah, tout ce que Bon Geek a besoin.
Alors quel est le statut avec lequel vous recevez ces dons et... Bah, comment c'est organisé derrière
bah, c'est la Meito qui reçoit.
Oui, c'est la Meito, effectivement, on s'occupe de la partie relation avec les sponsors, donc on contractualise avec les sponsors, on s'occupe de toute la partie logistique, de la relation aussi avec Epitech, puisque ça se passe dans leurs locaux. Et là, c'est vrai que on a vraiment un partenaire avec Epitech qui est top, parce que il laisse les locaux ouverts toute la nuit, c'est très très souple, donc ça c'est super. On a une dizaine de boîtes qui sponsorisent, donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est leur demander de sponsoriser un peu plus, mais parce que les sponsors, ils veulent aussi avoir un peu de visibilité, donc quand on a beaucoup de sponsors, ça devient plus compliqué à gérer. Mais après, oui, il peut y avoir du prêt de matériel, il peut y avoir... Des dons sur les goodies, ça peut être du sponsor en nature et du sponsor en cash. Donc on prend.
Bon, eh bien, Saxe, Caluche, Adrien, Guillaume, Yann, un grand merci pour votre participation.
Eh ben, merci de nous avoir invités.
Merci beaucoup.
Et nous vous disons à tous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.